Dans la région des Béni, au nord Kivu, connaît depuis plus d'une décennie une situation d'insécurité. Cette situation s'est aggravée depuis 2014 avec des massacres en série des populations civiles, des rebelles et des DDF. Cela fait que la population, qui dans sa majorité dépendait de l'activité champêtre, a déserté ses champs. Du coup, l'activité sur tous les plans en pâtit. Les élèves ne fréquentent presque plus les écoles qui sont occupées par certains militaires. Pas d'université et d'hôpitaux viables. Les opérateurs économiques ont été obligés de délocaliser leurs activités, notamment à Nairobi, Kampala et Jakarta. Et donc, c'est tous les secteurs vitaux qui sont sérieusement affectés et paralysés. Mais que faut-il pour recréer les conditions d'une vie normale dans cette partie du pays? Quelles sont les perspectives d'avenir pour la région des Béni? C'est l'objet de cette spéciale émission Dialogue entre Congolais sur Béni qui se produit à Béni avec la population des Béni. Est-ce que Béni est présent ici? Est-ce que Béni est vivant? Nous avons aussi la participation dans cette émission des Nations Unies à travers M. David Marquez. Il est représentant de l'Organisation internationale des migrations OIM en cible et programme manager du projet de stabilisation appelé Ensemble pour Béni. Bonsoir, M. David Marquez. Fabrice Mouloahali, président de la coordination des étudiants de l'université officielle de Semouliki de Béni. Bonsoir, M. Fabrice Mouloahali.
Bonsoir, M. le journaliste.
Et le bishop Janvier Baraka, président du consortium de confessions religieuses de Béni et notable de la région. Bonsoir, monsieur le bishop Janvier Baraka.
Bonsoir, Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission. Nous commençons avec vous, M. David Marquez, représentant de l'Organisation internationale des migrations OIM en sigle et programme manager du projet de stabilisation appelé Ensemble pour Béni. Nous avons brossé les tableaux sombres, n'est-ce pas, des Béni, vous avez suivi. Face à ces tableaux, que pensent les Nations Unies pour justement restaurer les contextes, un contexte de vie normale dans la région des Béni? Parce que nous avons appris que les Nations Unies ont un plan de stabilisation et dans ce plan, il y a des projets. Parmi ces projets, il y a celui que vous appelez Ensemble pour Béni et qui est géré par vous. Est-ce que vous confirmez que ce projet existe? Ensemble pour Béni.
Effectivement. Pour parler un peu plus de plan sur les stabilisations et les avenirs, en concernant le plan de stabilisation pour la zone, je ne suis pas peut-être le meilleur placé pour parler de ça. Néanmoins, pour parler du projet
de stabilisation Ensemble pour Béni.
Oui, exactement.
Il existe ce projet.
Existe le projet.
Il s'agit de quoi?
Le projet, c'est un projet qui vise à contribuer à la stabilisation de l'Est de la RDC. Ok. Ce projet s'encadre dans la stratégie de stabilisation IK13 de l'unité de stabilisation de la MONUSCO. Et le projet répond spécifiquement à 4 piliers de cette stratégie. C'est le pilier de dialogue démocratique, la relance économique et la restauration de l'autorité de l'État.
Dialogue démocratique, il s'agit de quoi?
Le dialogue démocratique, c'est un cadre que nous avons pour permettre à la population de se joindre et discuter les différents conflits, les différentes difficultés qu'ils ont dans leur communauté. C'est à partir de cette discussion avec et entre cette population qu'on va essayer de trouver des solutions, des pistes de solutions. Oui, qu'on va soit nous-mêmes, c'est-à-dire les communautés, essayer de les résoudre, les amener auprès de ceux qui doivent les traiter, comme par exemple les autorités.
Une approche participative, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors, vous avez parlé de la relance économique. Mm-hmm. Comment vous avez procédé?
Dans le cadre de la relance économique, il y a deux points spécifiques, deux composantes spécifiques. Là, on va parler d'un renforcement de capacité des différentes structures de l'État, plus spécifiquement le secteur minier et le foncier, mais aussi là on va essayer de créer des possibilités de travail pour améliorer la situation socio-économique de nos bénéficiaires à travers les activités de génératrices de revenus.
Voilà, vous savez que nous sommes dans un contexte particulier, Béni, avec tout ce que cette province a connu comme guerre, comme instabilité, n'est-ce pas? Et tout est fonction pour qu'il y ait relance, est fonction, n'est-ce pas, de la restauration et de la paix. Que prévoient ces projets de stabilisation ensemble pour Béni, pour restaurer effectivement la paix? Et c'est ça que tout le monde attend ici.
Exactement. Donc, quand on va parler de stabilisation, il faut qu'on puisse comprendre comment on comprend la stabilisation, n'est-ce pas? La stabilisation, c'est traiter le moteur de conflit. C'est pour ça que je viens de parler qu'une des mesures de traiter ces moteurs de conflit, c'est à travers le dialogue. C'est pour ça que nous avons le pilier de dialogue démocratique. Mais aussi, un moteur de conflit peut être, et nous sommes sûrs que c'est ça aussi, c'est le chômage. C'est pour ça que nous sommes en train aussi de créer des différentes possibilités d'amélioration de revenus de la population. Mais aussi, la capacité de l'État de répondre aux besoins de la population. C'est pour ça que nous renforçons aussi la capacité de l'État. C'est dans ce sens que le projet prévoit contribuer à cette amélioration de la stabilisation dans le territoire, c'est-à-dire à travers le traitement, si vous voulez, de ces moteurs de conflit comme tels, comme le chômage, le dialogue et ce type de...
Voilà, vous avez évoqué un aspect important, les chômages, surtout les chômages des jeunes. Et cela passe, n'est-ce pas, par la relance de l'économie de la région. Vous savez que la plupart des opérateurs économiques ont délocalisé leurs activités. Et qu'est-ce que vous comptez faire à travers ces projets Ensemble pour Béni pour convaincre ces opérateurs économiques à pouvoir revenir, n'est-ce pas, pour investir une fois de plus dans la région de Béni afin de créer des emplois, afin que tous ces jeunes puissent trouver du travail?
Bon, peut-être ce n'est pas à nous de les convaincre comme tels. Nous devons juste montrer qu'à Béni, c'est encore possible de travailler, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire les activités du projet en termes de renforcement de capacité de nos bénéficiaires, dotations et ce type d'activités, pour montrer aux différents prestataires, aux même les bailleurs, que c'est possible d'investir dans ce territoire.
Ok. Fabrice Mouloir Ali, président de la coordination des étudiants de l'université officielle de Semouliki de Béni. Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux des infrastructures académiques de Béni, école, université?
Tout à fait. La question arrive au bon moment et en tout cas à la meilleure personne, parce qu'il faut dire que la région de Béni, à la période où elle est en train de traverser ce cycle infernal, elle est en train de souffrir toutes les dimensions. S'il faut parler d'un tableau autour des infrastructures des institutions éducationnelles à Béni, partir des écoles primaires, secondaires, jusqu'à l'université et des instituts supérieurs, c'est un tableau très sombre. Très sombre, oui, parce que quand il faut dire, par exemple, que la ville et les territoires de Béni ne comptent qu'une seule université de l'État, n'ayant même pas des bâtiments propres, n'ayant même pas des laboratoires, n'ayant même pas de professeurs permanents, une université qui vient juste d'avoir une faculté de médecine l'année passée et qui souffre en tout cas, qui est dépourvue de tout ce dont une faculté a besoin. C'est un terrible constat de le dire aussi haut et d'attirer l'attention des autorités de ces pays qu'on va continuer à les dire qu'il n'y a pas de Congos à Béni. S'il faut partir, il faut dire par exemple, il y a des communes à Béni, notamment la commune Rwenzori qui a été vidée en moitié de sa population. Il y a des écoles qui ont été abandonnées. Les enfants de toutes ces écoles, quasiment, ils ont des problèmes à étudier. Vous comprenez, dans ce sens-là, des enseignants qui ne savent plus donner cours, des enfants qui ne savent plus étudier. Et c'est toute une jeunesse qui est sacrifiée, qui ne sait plus comment évoluer, qui perd l'espoir de voir un avenir meilleur. Ça complique un tout petit peu. Et on pense que cela doit vraiment attirer l'attention la plus particulière de nos autorités.
Voilà, il y a ces tableaux sombres, n'est-ce pas, que vous venez de présenter. Il y a ces projets de stabilisation appelés Ensemble pour Béni. Quelles sont vos attentes, vous, jeunes de Béni, par rapport à ces projets dont parle aujourd'hui Monsieur David Marquez?
Alors, je pense que quand ils se sont mis et pensé à ces projets, je crois qu'ils se sont d'abord posé la question sur le fond et les causes profondes de la guerre à Béni. Nous pensons que s'ils se sont posés cette question, c'est qu'ils savent que la guerre à Béni a presque trois connotations. La première, c'est une connotation d'occupation. La deuxième, c'est une connotation économique qui donne directement trait à des richesses. La troisième, c'est la pauvreté de la population. Ça veut dire qu'il y a des rébellions qui naissent parce qu'elles veulent prendre la région de Béni. Il y a des rébellions qui naissent parce qu'elles sont au service des multinationales et des grandes puissances et qui sont en train d'exploiter des minerais ici.
y a des rébellions qui naissent parce qu'il y a des jeunes dans la communauté qui n'ont pas d'emploi et qui veulent se débrouiller. S'ils sont parvenus à identifier ces problèmes, c'est qu'ils savent d'où va venir la solution. S'il faut dire, par exemple, que les ressources constituent un problème, ça veut dire dans ce sens-là, il faut établir des mécanismes, une politique de protection. C'est-à-dire, dans ce sens, l'État congolais et eux, par exemple, vont se dire que la richesse congolaise constitue un atout et qu'il faut inscrire cela dans une voie de développement de la RDC. Et le cas échéant, il faut développer des théories pour défendre ces richesses et les mettre au profit de la population. C'est un aspect. Et s'il faut dire que ces richesses constituent pratiquement un défi majeur pour la population, le cas échéant, la guerre ne dira jamais son dernier mot si les autorités n'arrivent pas à prendre des choses au sérieux et protéger ces ressources et les mettre au profit de la population. Sans quoi, on va continuer à vivre la guerre ici et en tout cas, on ne saura pas comment arrêter ce cycle infernal qu'on est en train de traverser dans la région.
Et donc, à ces projets des Nations Unies, il faut aussi, n'est-ce pas, demander ou recommander au gouvernement de pouvoir aussi mettre en place des politiques pour essayer de relancer l'activité à tous les points de vue dans la région des Beni, c'est ça.
S'il faut se baser sur ce que je viens de dire, ça veut dire que la solution, elle est à la fois diplomatique, c'est un aspect. La solution, elle est également locale, procédée par l'établissement d'une politique économique, des redistributions des richesses à la population, que chacun soit se sente au moins citoyen et profite des bénéfices, des fortunes ou alors de ressources du pays. En procédant par cela, il y aura ceux des multinationales qu'on est en train de citer ou des grandes puissances qui sont en train de viser d'une façon ou d'une autre la fortune ou les ressources du pays, qui vont devoir accéder au pays par une voie légale, dans un cadre pratiquement bilatéral, dans un contrat des business. Ils vont venir, ils vont exploiter, mais le Congo sera en train de gagner. S'il faut combattre la pauvreté, il faut une politique. Mais tout cela passe justement par une formule d'éducation. Je viens à peine de vous dire qu'il y a un problème d'éducation, des structures d'institutions éducationnelles à Beni. Dans une université comme celle que je représente ici, ce soir, l'Université officielle de Sémouli, qui en organise la faculté d'économie, où pratiquement il faut renforcer ses étudiants. Il faut leur donner, leur outiller des meilleurs enseignants pour que cela mette au profit les savoirs qu'ils acquièrent à l'université pour propulser de l'avant le développement de la région.
Merci Bishop Janvier Baraka, président du consortium des confessions religieuses des Beni et notables de cette région. Et comment vous percevez, n'est-ce pas, cette région des Beni après ces conflits, après cette guerre?
Merci pour la question. Vous savez que Beni actuellement est stressé. Nous avons en face de nous une population qui est traumatisée et qui ne sait plus à quel sens se vouer. Nous avons une population qui à 80% est jeune. Heureusement que dans le débat nous avons aussi les étudiants. Vous allez comprendre que non seulement tout ce que les amis ont pu développer ici, il y a d'autres choses qui doivent entrer en ligne de compte. C'est-à-dire que il n'y a pas seulement que les organisations internationales qui doivent intervenir, mais il y a aussi l'État qui doit prendre ses responsabilités. Comment expliquer, par exemple, que les gens, si on devait entrer dans la sécurité, comment est-ce que cette population peut vivre sans la sécurité? Comment elle peut se relancer sans la sécurité? Aujourd'hui, nous avons une jeunesse, par exemple, qui s'adonne à la toxicomanie parce que elle n'a pas de ressources. Aujourd'hui, il n'y a pas de routes, de dessertes agricoles. Aujourd'hui, il y a ce que nous appelons la porosité de nos frontières, où nos matières sont en train de sortir à tout bout de champ et comme on veut. Aujourd'hui, par exemple, on a évoqué le problème du chômage. Et ce chômage, ça touche presque toute la frange de la population. Eh bien, est-ce qu'il y a des actions qui sont envisagées pour encadrer la population? Est-ce qu'il y a des actions qui sont envisagées pour attirer les investisseurs? Est-ce qu'il y a des actions qui sont envisagées pour créer des activités génératrices de revenus.
C'est vrai que vous posez beaucoup de questions, n'est-ce pas? Vous avez suivi la présentation du projet Ensemble pour Beni, présentation faite, n'est-ce pas, par David Marquez. Comment vous réagissez par rapport à ces projets, à ce qui est prévu, n'est-ce pas, à travers ces projets Ensemble pour Beni?
Je crois que Ensemble pour Beni devait d'abord, disons, vulgariser ses activités aux consommateurs. Et qui sont les bénéficiaires de ce projet? J'imagine que les bénéficiaires de ce projet, dans l'ensemble, c'est la population de Beni, de la région de Beni, mais comme j'ai dit, à 80%, ce sont les jeunes qui devaient être les grands bénéficiaires de ce projet. Et alors, je pense que la première démarche, c'est de faire comprendre à cette population quels sont les avantages qu'ils tirent de ce projet Ensemble pour Beni.
Et vous êtes bishop, n'est-ce pas? Et nous avons en face de nous cette rébellion des EDF qui a plusieurs approches, parmi lesquelles cette approche spirituelle pour captiver les jeunes afin de pouvoir adhérer, n'est-ce pas, dans leur mouvement. Vous, en tant que bishop, quelle est l'approche que vous préconisez pour justement pousser ces jeunes-là à pouvoir revenir à la raison?
Oui. Quand il y a une guerre, elle se base sur quatre principaux éléments. Il y a d'abord la guerre de conquête du pouvoir, soit c'est une guerre interethnique, soit c'est pour le pillage des ressources naturelles, soit c'est une guerre interreligieuse. Et dans la question que vous posez, nous avons ce problème. Parce que on nous parle des MTN, on nous parle des djihadistes, et ça a tendance à confronter les confessions religieuses, notamment les chrétiens avec les musulmans. Et pourtant, chez nous à Beni, il n'y a pas de conflit de religion. Mais ce qui nous amène la guerre, ils ont tendance à nous plonger dans ce conflit. Heureusement que nous, on essaie de tout faire pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi.
Alors qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que vous faisons
pour amener ces jeunes à pouvoir, n'est-ce pas, quitter ces groupes armés?
La sensibilisation.
La sensibilisation. C'est
important. Il faut sensibiliser. Il faut éviter aussi la stigmatisation.
Merci. Merci. Et nous allons maintenant donner l'occasion à vous, jeunes de Beni, le public, pour que vous puissiez poser des questions. Mais soyez concis, hein. Soyez concis, soyez précis, hein, parce qu'on n'a pas tout le temps.
Je m'appelle Paluku Kama, vous l'étudiez à l'IOS. Ma question s'adresse juste à l'invité en ce qui concerne les projets d'assemblée pour Beni.
À David Marquet.
À David Marquet. La question est celle-ci. Dans ces projets-là, où seront le bénéfice des enfants victimes de massacres? Parce que dans tous les projets, je n'ai pas attendu là où il a cité, où seront le bénéficiaire de ces enfants-là, les enfants victimes de massacres. Merci beaucoup.
Dadi Yazor Nyamusisi, étudiant en faculté de droit à l'Université officielle de Semouliki. Ma question s'adresse justement à David. Avec les projets Ensemble pour Beni, il devrait nous dire depuis quand le projet est à Beni et comment ils sont en train d'évaluer leur impact sur le terrain par rapport à l'approche. Bien entendu, il devrait aussi nous donner l'approche qu'ils sont en train d'utiliser pour permettre à la population locale de s'approprier les actions du projet Ensemble pour Beni.
Oui, moi c'est Jean Ali. Ma question s'adresse au bishop. Mais ce bishop, est-ce que depuis qu'on a commencé avec le problème de l'insécurité à Beni, avez-vous le temps de vous mettre ensemble avec la population et la MONUSCO, l'armée et toute autre structure pour pallier vraiment à ces problèmes?
Merci. Nous allons commencer d'abord par répondre à ces trois questions. Deux questions ont été adressées à Monsieur David Marquez. Mais d'abord, est-ce que Beni est là? Manifestez-vous. Vous êtes une jeunesse dynamique. Manifestez-vous. David Marquez, enfant victime des massacres.
Alors, les bénéficiaires du projet, ce n'est pas le projet qui décide qui sont les bénéficiaires du projet. Okay. C'est la communauté. C'est un projet avec une approche tout à fait participative. c'est la communauté qui décide. Nous sommes arrivés au territoire et nous avons demandé à la population locale de dire qui sont les bénéficiaires de ce projet. Ce n'est pas nous qui allons là-bas dire, ah, c'est vous les bénéficiaires. C'est la communauté qui a décidé qui allait être les bénéficiaires. C'est-à-dire, les jeunes, principalement, sont nos bénéficiaires. Donc, quels sont les jeunes qui répondent à certains critères de vulnérabilité conçus par et avec la communauté? Et c'est sur ça que, et c'est comme ça que nous avons choisi les bénéficiaires.
Voilà, il existe depuis quand et est-ce que vous avez évalué l'impact sur le terrain?
L'impact n'a pas encore été évalué, parce qu'on n'a pas encore fini le projet, bien sûr, mais le projet, avant cette approche participative, la communauté est toujours avec nous. Dans toutes les actions, soit la société civile, soit l'ISTAREC, soit les autorités locales, ces acteurs sont toujours avec nous pour voir comment les activités sont en train d'être mises en œuvre et aussi pour nous donner des conseils pour regarder les différentes actions que nous sommes en train de faire au territoire.
Bishop Janvier, parce qu'il vous arrive aussi de vous concerter avec les autres partenaires?
Tout à fait. C'est presque tous les mois que nous sommes avec la MONUSCO dans ce que nous appelons le cadre permanent de concertation. Et nous parlons des thématiques qui concernent la situation globale de Béni. Nous sommes aussi en contact avec l'armée. À l'époque du général Mbangu Mashita, on tenait des réunions avec lui. Et même avec le chef d'état-major général qui était de passage à Béni, qui a travaillé ici à Béni, on a eu le temps de parler avec lui. Il a eu même le temps de réunir certains groupes sociaux dans la salle Thomas d'Aquin. Et les plaidoyers continuent. Nous avons aussi de temps en temps des plaidoyers auprès du gouvernorat des provinces. Nous y allons. Nous sommes en contact permanent avec l'Assemblée provinciale pour justement parler de la situation globale des Béni. Et en 2017, nous avons aussi piloté un projet de détraumatisation qui a concerné Rwangoma et Mavivi Oicha. Donc, c'était avec toutes les confessions religieuses. Voilà un peu comment nous sommes en train de mener des actions sur le terrain. C'est-à-dire que nous travaillons parfois. Nous pouvons passer sur les médias, sur la radio Okapi, et parfois il y a des choses que nous faisons seulement dans des réunions.
Merci. Fabrice Moulahali, apparemment vos amis n'ont pas voulu vous acculer, hein, mais nous avons des questions à vous poser. Et les groupes armés recrutent surtout parmi les jeunes comme vous. Qu'est-ce que vous préconisez pour que les universités puissent jouer le rôle des catalyseurs, hein, qu'elles soient capables, n'est-ce pas, d'attirer et de fasciner les jeunes comme dans d'autres pays, comme les États-Unis, hein. On voit Facebook, on voit, il y a des inventions qui se font à partir, n'est-ce pas, des universités. L'impulsion souvent vient des universités. Qu'est-ce que vous préconisez pour que nous soyons aussi en mesure de jouer, nos universités soient aussi en mesure de jouer ces rôles de catalyseurs?
Il faut dire que les universités sont en tout cas la lumière pour la société. Alors c'est là même que réside le problème. Comment pensez-vous qu'une université sera réellement une source des lumières, va jouer le rôle des catalyseurs, alors que les conditions dans lesquelles elle est en train de fonctionner ne sont pas vraiment confortables pour encadrer valablement les jeunes? Ça veut dire, là aussi c'est une question d'éthique politique et de volonté des autorités de prévoir un système éducationnel adapté, de prévoir tout, en tout cas de façon réelle, pour que les étudiants, le contexte dans lequel ils étudient, soit un contexte approprié à leur désir et qui soit à mesure de se promouvoir et de produire tout ce qu'ils apprennent. Par exemple, on a une faculté de génie informatique à l'université, mais je vous dis qu'on a un problème des laboratoires informatiques appropriés pour... comment pensez-vous qu'ils vont faire des logiciels alors que cela constitue un problème? C'est que on est prêt à le faire, on est engagé. Tous les jeunes que vous avez devant vous, ce sont des jeunes qui ont ce désir de voir Béni, de voir le Congo aller de l'avant, qui ont également un bagage suffisant pour propulser de l'avant la région de Béni, mais qui ne sont pas, en tout cas, accompagnés. Vous avez suivi, il a dit, par exemple, qu'ils sont en partenariat avec UOM, avec l'UCBC,
Mais ils n'ont pas pensé à la seule université de l'État de la ville. Alors qu'ils sont des partenaires de l'État, est-ce que avant de sélectionner des partenaires, ils ont dit qu'il y a une université de l'État à Beni et qu'il faut prendre cette université, la mettre dans ce système, dans ces projets, pour que ces étudiants mettent leur savoir au profit de la population ou alors au profit de la résolution de ces problèmes. C'est une question de stratégie, c'est une question de volonté que chacun, à travers sa responsabilité, se dise que Beni a besoin d'une université de l'État, en tout cas adaptée au niveau de toutes les autres universités, pour que ces cadres qui sont en train d'être formés soient en tout cas des cadres très utiles à la société, parce qu'ils auront déjà acquis des savoirs appropriés à travers leur cadre étudiantin.
Question de stratégie, question de volonté. Est-ce qu'il existe un cadre de concertation entre vous, étudiants, n'est-ce pas, en particulier, et les jeunes, avec les décideurs politiques, un cadre à travers lequel, n'est-ce pas, vous pouvez présenter toutes ces difficultés?
Alors, si je dis quelque part que c'est une question de volonté, c'est parce que les étudiants, ils sont là, ils sont disposés, et ils sont jeunes, ils sont membres des différentes structures de la ville, mouvements citoyens, associations des jeunes, ils sont toujours en contact avec les autorités. Même quand le président il arrive à Beni, les étudiants ils sont là pour le rencontrer, bien qu'assez souvent il est surchargé, il les reçoit difficilement. Mais le problème, je ne vais pas dire que les autorités ils ignorent le problème. Ils savent qu'il y a un problème. Par exemple, j'insiste, comment pensez-vous qu'il y a une université à Beni, une université de l'État, qui n'a même pas ses propres auditoires? C'est compliqué. Il n'y a même pas un professeur permanent à Beni. Pour toute la ville, il n'y a pas un professeur permanent. Alors qu'il y a des profs qui passent leur journée à Kinshasa sans rien faire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, pour l'État de miter même 100 professeurs juste pour la ville de Beni? Ils viennent rester ici, donner cours dans des institutions de Beni et former des cadres dignes de ces noms qui peuvent, alors, bien entendu, donner les meilleurs d'eux-mêmes pour aider la région à avancer, parce que tout part de l'éducation. C'est là la base.
Merci, tout part de l'éducation. Vous avez raison, David Marquez. Votre réaction par rapport à ce que vient d'affirmer notre ami Fabrice Mouloahali?
Oui, on pourrait dire nous sommes d'accord avec sa position. Néanmoins, ça, ce n'est pas à nous le projet de répondre spécifiquement à ça. Ça, c'est une chose qui va au-delà de notre mandat. Non, nous sommes là comme nous sommes une petite goutte dans tout cet océan, hein, pour répondre aux difficultés et aux besoins de Beni. Nous sommes un projet pilote qui est venu pour traiter certains moteurs de conflit. On ne peut pas tout résoudre.
Oui, mais c'est des doléances, n'est-ce pas, que vous pouvez communiquer à vos différents partenaires qui sont avec vous dans ces projets.
Bien sûr, bien sûr. C'est ce que nous faisons toujours. On fait le plaidoyer que nous faisons toujours. Nous communiquons à tous différents acteurs ce que nous avons besoin dans ce territoire pour mieux encadrer et répondre aux besoins de la population de Beni.
Monsieur le Bishop Janvier Baraka, vous êtes notable, n'est-ce pas, de cette région. Lorsque vous suivez les jeunes en train de parler ainsi, comment vous réagissez?
C'est leur droit, en tant que jeunes, parce qu'ils voient l'avenir devant eux, mais un avenir qui est sombre, et ils se demandent si réellement, quand ils vont terminer les études, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Je pense qu'il y a lieu de penser à répondre à leurs attentes. Et ça, ce n'est pas seulement des organisations comme le projet Ensemble pour Beni, mais moi je me rabats encore sur le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités, qui sait qu'il a une jeunesse meurtrie à Beni, une jeunesse qui se sent presque abandonnée lorsque la jeunesse réclame haut qu'elle n'a même pas des auditoires. C'est quand même une responsabilité de l'État. Et là, nous voulons en appeler à la responsabilité de l'État, aux autorités, au niveau national, de penser à doter cette université des propres locaux. Ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays. C'est peut-être la volonté, ou c'est peut-être qu'on ignore que l'UES existe à Beni. Alors que Beni fait parler d'elle, la ville de Beni, elle fait parler d'elle dans le monde entier actuellement. Beni fait parler d'elle dans toutes les émissions, dans toutes les réunions qui se font au niveau national. Et donc, il y a des questions qui doivent attirer l'attention du gouvernement pour les amener à résoudre tant soit peu quelques attentes de cette jeunesse.
Voilà. Donc, pour permettre à ce que la vie redevienne normale dans cette région des Bénis, il y a des axes sur lesquels il faut se pencher, notamment comment réhabiliter les routes des dessertes agricoles. Là, nous sommes sur le plan économique, mais nous avons évoqué avec Monsieur Marques le fait que il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Et ceux qui, n'est-ce pas, investissaient dans ces entreprises-là sont partis, ont délocalisé leurs activités. Vous êtes bishop, vous êtes notable d'ici. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que vous essayez, n'est-ce pas, de convaincre ces opérateurs économiques à pouvoir revenir à Béni? Je sais que tout ne dépend pas de vous. Et le grand travail à faire, c'est au niveau du gouvernement central qui doit créer des conditions, n'est-ce pas, pour permettre à ces opérateurs économiques de pouvoir revenir. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau?
Je crois que le fait d'avoir investi ailleurs qu'au Congo, c'est lié au problème de sécurité. Mais si réellement ils sont conscients que derrière eux, il y a une jeunesse qui attend d'eux, ils doivent encourager le système d'entrepreneuriat.
Okay. Système d'entrepreneuriat, ça c'est très important.
Ils doivent encourager cela. Comment expliquer par exemple que nous pouvons consommer les œufs qui viennent de l'Ouganda alors que nous avons des espaces où on peut, n'est-ce pas, faire l'élevage des poules? Comment expliquer que nous mangeons les poules qui viennent de l'Ouganda? Comment expliquer que la tomate, la simple tomate, vienne de l'Ouganda? C'est parce que la population ou a été chassée de leurs champs, mais aussi c'est parce que il n'y a pas de gens qui encouragent cette jeunesse, qui peut encadrer cette jeunesse, qui peut les rassembler pour dire, écoutez, au lieu qu'on achète par exemple la tomate de l'Ouganda, nous allons vous engager tous, nous créons un champ pilote par exemple, des hectares, on cultive la tomate. Eh bien, les jeunes auront du travail et entre-temps, l'économie va se relever.
Merci, ça c'est important. Est-ce que Béni est là?
Oui.
Jeunesse de Béni, est-ce que vous êtes là?
Oui.
Il faut les manifester.
Oui.
Les questions, il y en a, les questions?
Merci, moi c'est Dalila Hassan, je suis étudiante à l'IOS. J'ai trois droits. Ma question s'adresse à Monsieur David Marques. Tout au début, Monsieur David, vous avez dit que votre projet a trois piliers, notamment les dialogues, les relances économiques et la restauration de la paix. Est-ce que vous êtes rassuré que est-ce que vous dialoguez avec la population? Moi, je dirais non, parce que les bénéficiaires là que vous nous dites qu'il y a des gens de bénéficiaires dans ces projets là. Les bénéficiaires allaient être les victimes des massacres, soit les victimes de la guerre. Mais les victimes de la guerre ne sont pas bénéficiaires. Vous nous avez dit que vous êtes en train de vous collaborer avec la société civile et les chefs locaux. Est-ce que vous êtes rassuré que ces chefs locaux et la société civile vous amènent réellement ces victimes-là, ou soit les vulnérables, ou ce ne sont que des membres de leur famille? Merci.
Merci bien, je suis Azarias Mokonzi, étudiant à l'IOS, j'ai des droits. Ma question s'adresse droitement au Bishop. Il a souligné un aspect très important, la manipulation des jeunes justement pour adhérer dans ce mouvement djihadiste. Lui étant que responsable d'une structure justement qui prône dans les liens spirituels, comment est-ce qu'il procède pour amener cette jeunesse à ne pas adhérer dans ces groupes qui constituent justement un casse-tête dans cette partie du pays? Merci.
Merci pour la parole donnée. C'est Jean-Paul Mouindo Lusenge, politologue à l'IOS. En fait, ma question s'adresse à David. Vous vous occupez des traitements des monteurs des conflits. J'aimerais savoir, parmi les traitements des monteurs des conflits, si vous avez pu relever l'arrivée à flux des personnes non originaires de la région et qui peut facilement être les sources de la mobilisation des groupes armés pour créer encore les sécurités. Merci.
Merci pour la parole. Moi, c'est Pierrette Mouaïté, quand je fais un droit. Ma question s'adresse à David. Si je vous ai bien suivi, vous avez dit que vous êtes venu donc finir les chômages. Je me demandais si combien de jeunes vous avez donné le travail, essentiellement.
Ok, donc trois questions à Monsieur David Marquez. Est-ce que vous dialoguez effectivement avec la population? Et les personnes avec qui vous travaillez, est-ce que ces personnes vous apportent la vraie information?
Ok, merci. Effectivement, dans le cadre du projet, dans le pilier de dialogue démocratique, nous avons mis en place 5 groupes permanents de dialogue, dans Benimbao, dans Ruwenzori et en Watalinga, avec les différents représentants de la communauté ou des communautés. C'est dans ce cadre de dialogue où ils se réunissent pour discuter les différentes problématiques, les différents conflits qui existent dans la zone, dans leur communauté. C'est ce dialogue qu'on fait référence, et à partir de ces dialogues qu'ils font entre eux, ils essayent eux-mêmes de trouver des solutions pour ces conflits, et on amène ça après aux différents acteurs qui devraient être les meilleurs placés.
Cette jeunesse qui vient de poser la question, elle est, n'est-ce pas, organisée? Est-ce que vous l'associez à ces dialogues?
Oui, alors le dialogue, les portes sont toujours ouvertes. Il y a ce groupe de dialogue qui est bien déjà établi, constitué, oui, mais les espaces sont toujours ouverts pour les différentes personnes qui veulent y arriver, participer dans des dialogues. Ce n'est pas un espace de dialogue fermé, c'est un espace, on a ciblé les 50% des participants des femmes, 50% des hommes, pour que ça puisse être aussi bien représentatif, oui, mais aussi qu'à part les membres permanents de ces groupes, les portes sont ouvertes pour que la population puisse arriver et communiquer et s'exprimer par rapport à leur difficultés ou problématiques.
Et l'autre question, c'est l'arrivée à flux des personnes non originaires dans la région. Est-ce que vous avez tenu compte de ça dans ces projets de stabilisation appelés Ensemble pour Béni?
Ça sort de notre mandat. Là, on travaille avec la population locale. On sait que la problématique de Béni, surtout la question de chômage, la question de conflit, touche directement cette population ici. On pourrait dire que peut-être il y a des influences extérieures, on ne sait pas. Ça va au-delà de notre mandat. On travaille avec la communauté congolaise de Béni et on travaille avec elle pour renforcer leur capacité à améliorer leur vie. C'est ça que, en tant que projet, nous avons à dire.
Bishop Janvier, comment vous procédez pour amener justement cette jeunesse à ne pas adhérer à ces groupes armés?
Je voudrais juste informer les amis que notre structure s'appelle le Conseil des confessions religieuses en Afrique. C'est un consortium de chefs religieux. Et alors, nous traitons avec les chefs religieux et à ce titre, nous demandons à chaque responsable de pouvoir informer les jeunes et pouvoir les sensibiliser à ne pas adhérer dans les groupes armés. Évidemment, il y en a qui y vont. Non pas parce qu'ils le veulent, mais qu'ils ont été kidnappés. Ça, ce sont des cas de force majeure. Mais pour ceux-là qui sont dans la vie pratique et dans les confessions religieuses, il y a cette démarche de vouloir les sensibiliser. Et il y a aussi d'ailleurs un projet qu'on est en train d'adresser aux partenaires pour la lutte contre la désinformation. Parce que en réalité, les djihadistes dont on parle, ils considèrent les musulmans qui est avec nous à Béni, qui n'est pas un bon musulman. C'est pour cela que nous disons, nous évitons de tomber dans les pièges, c'est pour cette raison que nous avons formé cette structure-là, pour que nous soyons tous ensemble et qu'on puisse parler paix ensemble. C'est une manière de nous encadrer nous-mêmes et d'encadrer notre population et de les amener à comprendre que ce qui est en face de nous, la guerre qui est en face de nous, c'est une guerre qui vient nous attaquer tous, mais qui n'attaque pas certaines confessions au détriment des autres. Voilà.
Merci, Fabrice Mouloir Ali. Vous avez suivi le bishop qui a évoqué une question importante, c'est sur l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous recommanderez à vos amis jeunes comme vous?
Alors, l'entrepreneuriat, je ne pense pas que ce soit en tout cas la difficulté pour les jeunes. Mais la difficulté, c'est sur la matérialisation de cet entrepreneuriat. S'il faut dire, par exemple, qu'il y a des jeunes qui peuvent initier
des activités et que ces activités, si elles ne sont pas touchées par l'insécurité, elles sont d'autre part touchées par exemple, la fiscalité. On a un problème des taxes, on a un problème d'impôts qui ne permet pas, en tout cas, aux jeunes de bien travailler et de s'épanouir. J'ai quelque part évoqué une question d'établissement d'une politique spéciale pour la promotion, pratiquement de l'entrepreneuriat, par exemple, ici. C'est que s'il y a quelqu'un qui veut faire un poulailler dans la commune Rwenzori, il n'arrive pas à le faire simplement parce qu'il y a de l'insécurité. Et donc, il faut mettre en place une politique, tout d'abord, de sécurisation de la région, ensuite, de la promotion de cet entrepreneuriat en mettant des stratégies particulières pour des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et également, il faut mettre à la disposition des jeunes des fonds remboursables dans un délai qui peut leur permettre de prendre cet essor, de décoller et pratiquement à la langue, qui seront en train de rembourser avec le temps.
Nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez conclure déjà?
En guise de conclusion, c'est que le développement la région de Beni a besoin de trois principales choses. La première, c'est pratiquement le domaine sanitaire. C'est qu'il faut travailler sur les besoins de la santé de la population. Et cela passe par la formation des professionnels de santé à travers les universités. Notamment l'IOS qui organise une faculté de médecine.
La deuxième chose.
Il y a la deuxième chose qui passe par le besoin de dépenser à construire des universités qui sont capables de produire des jeunes qui peuvent résoudre les problèmes de la société.
Ok, la troisième.
La troisième, elle est autour du niveau de vie. Il faut établir une formule pour doter de la population une vie adaptée. Ça veut dire s'il y a la région de Beni vie essentiellement de l'agriculture, il faut promouvoir l'agriculture pour que la population ait tout ce dont elle a besoin.
Voilà, Monsieur le Bishop Janvier Baraka, votre conclusion.
Oui, en guise de conclusion, je demanderai qu'il y ait cet encadrement de la jeunesse et qu'il y ait aussi la facilitation par des microfinances qui peuvent aider la population à se relancer. Il faut appliquer une politique de résilience communautaire.
Merci, Monsieur David Marquez. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, hein, et dans notre étudiante sur l'emploi. Qu'est-ce que, à travers ces projets, qu'est-ce que vous préconisez, n'est-ce pas, pour donner de l'emploi aux jeunes? Je pense que c'est ça.
Ok, merci. Bon, effectivement, OIM et World Vision sont en train de faire de formation et dotation dans le cadre d'entrepreneuriat à plus de 1000 jeunes dans les zones d'intervention du projet pour renforcer leurs capacités et pour leur permettre d'initier leur propre entreprise. C'est ce que nous sommes en train de faire.
Mais quelle jeunesse? Parce que cette jeunesse qui est là n'est pas au courant de ça.
Oui, ok. Parce que le projet Ensemble pour Beni, aujourd'hui, il n'est pas dans la ville de Beni. Il ne fait pas partie de la ville de Beni. Il n'est que dans les collectivités de Rwenzori, Benibao et Watali.
Et vous n'envisagez pas, n'est-ce pas, de l'étendre à la ville de Beni?
Oui, effectivement, mais ça ne dépend pas à nous. Nous sommes prêts pour venir ici.
Vous en parlez au partenaire. Hein?
Oui, ça dépend du partenaire, ça dépend du bailleur.
Votre conclusion?
Merci, au nom du consortium, on voulait juste demander aux autorités locales, provinciales et nationales, ainsi que la communauté, de continuer à nous aider, à nous appuyer pour continuer à mettre en place et en œuvre nos activités au territoire. Et aussi, l'appui de SSU et Istarec, c'est très important pour qu'ils puissent continuer avec nous dans ce processus.
Merci, c'est la fin de cette émission spéciale Dialogue entre Congolais à Beni avec la population de Beni. Est-ce que vous êtes là? Beni, Beni est vivant! Merci à Radio Kapi Beni, Martial Papi Moukeba, Marc Maro Fimbo et Stanislas Kayungu et à toute l'équipe Dialogue entre Congolais de Kinshasa, Kéline Kouté, Dona Madimba et Patrick Kiasonwa. À la présentation, Guy Maté. Bonne suite de programme sur Radio Kapi. Merci!